Bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans l'émission Magnificat en ce 31 décembre. Magnificat, émission de l'association Marie de Nazareth. Alors, nous terminons l'année avec deux intervenantes cette fois-ci. Émission spéciale, voilà. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir donc de nouveau Justina, notre spécialiste maison en théologie.
Bonjour.
Et Catherine Negovanovic, qui est aussi théologienne. Voilà, je rappelle que Justina, que vous connaissez bien, hein, puisqu'elle est à mes côtés chaque dimanche, est titulaire d'un Master 2 en théologie de l'Institut Saint-Serge, que vous parlez le français, le russe, l'anglais, vous maîtrisez bien plus le grec ancien et l'hébreu biblique que ce que vous dites.
Moi, je ne maîtrise pas, mais bon, j'ai quand même des notions.
Quand même.
Ça fait partie du métier.
Catherine Negovanovic est
Bonjour.
Avec nous. Bienvenue, merci d'être venue de Lorraine pour l'émission. Vous êtes directrice du service de la formation du diocèse de Metz, chercheur rattaché à l'Université de Lorraine, docteur en littérature comparée et possédez un master en théologie. Voilà, alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors, leur point commun étant la théologie, ne boudons pas notre plaisir. Comme le fil de cette émission est la Vierge Marie, nous évoquerons l'Annonciation, puis dans la deuxième partie, l'Assomption ou Dormition chez les orthodoxes. Mais avant toute chose, Catherine, vous souhaitiez poser les bases de cet échange en évoquant cette solennité souvent boudée ou oubliée du 1er janvier, fête de la Sainte Marie, Mère de Dieu, Théotokos, que nous connaissons bien. Cette fête du 1er janvier n'est pas dans le calendrier orthodoxe, n'est-ce pas, Justina ?
Non.
Mais la réalité de Marie Théotokos concerne à la fois l'Église catholique et orthodoxe. Alors, Catherine ?
Alors oui, c'est essentiel de commencer par là, puisque depuis le concile d'Éphèse de 431, Marie a été déclarée mère de Dieu, Théotokos. Et une chose qui serait importante à développer d'ores et déjà dès l'introduction, c'est que contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas la proclamation de Marie Théotokos qui a donné lieu à un développement du culte marial, c'est ce qu'on a dit beaucoup trop longtemps. Mais la recherche a renversé la perspective et a permis de se rendre compte que c'était parce qu'il y avait un culte dès les premiers temps, en fait, qu'à un moment donné, la proclamation de Marie Théotokos a été inévitable, enfin, dans le sens noble et saint du terme, bien sûr. Voilà. Alors, il y a à ce titre un ouvrage de Stephen Shoemaker qui enseigne à l'Université d'Oregon en 2016, et qui a publié un travail de recherche conséquent sur le culte marial, en fait, dans les premiers siècles du christianisme premier, donc, et dans lequel il fait état de sources. Alors, jusqu'au IIe siècle, c'est difficile, puisqu'on n'a pas grand-chose de plus, si ce n'est le protévangile de Jacques, mais dès le IIIe siècle, il y a des sources qui sont fondamentales et qui révèlent qu'il y avait un culte marial bien établi, que l'intercession à la Vierge Marie était quelque chose de très fréquent. Et voilà. Et alors, plus le temps passe, et plus on se dirige vers le début du 5e siècle, et bien plus les sources de toutes sortes, se multiplient, que ce soit des témoignages patristiques, des fêtes liturgiques, des consécrations d'églises dans l'iconographie, etc., etc. Donc oui, c'est essentiel, et cette proclamation finalement est à la fois un aboutissement, mais à la fois une juste consécration de cette réalité et à la fois un déploiement finalement qui s'ensuit quant au culte marial. Oui.
Oui, d'accord. Alors, parlez-moi de l'Annonciation.
Alors, l'Annonciation catholique et orthodoxe fête, et d'ailleurs à la même date, hein, le 25 mars, cette très belle fête hein, qui est l'annonce à Marie de l'incarnation du Seigneur, hein, puisque quand l'ange Gabriel vient la trouver, eh bien, l'objet de la fête, en réalité, c'est la conception humaine du Verbe dans le sein de Marie. Alors, bien sûr, Dieu étant Dieu, il aurait pu, pour parler techniquement, féconder la Vierge Marie sans lui demander son assentiment. Mais enfin, ce fameux fiat qui a signifié toute l'adhésion hein, pleine et totale de Marie au plan de Dieu, était de par la liberté que le Seigneur nous donne pour être dans cette relation d'amour, non seulement inévitable, mais absolument nécessaire. Et ça scelle surtout cette alliance définitive entre Dieu et l'humanité.
Oui, c'est même le commencement de tout.
Oui, et puis on sera amené sans doute à aborder cette thématique-là un petit peu plus tard. Marie en tant que nouvelle Ève, alors que Ève avait été l'incrédule, Marie a fait preuve de foi. Alors que Ève a désobéi, Marie a obéi et a suivi le plan de Dieu.
Oui. Justina.
Disons que sur l'Annonciation, je n'ai pas grand-chose à ajouter ou à contredire, puisque sur l'incarnation et la christologie, nous sommes un accord parfait avec nos frères catholiques romains. Donc, je reformulerai ce que vient de dire Catherine, que effectivement, le libre arbitre est un point très important dans notre théologie commune. Vous savez, quand on parle de l'histoire des religions, même en général, on parle beaucoup en disant quel est le concept du divin, mais on se pose moins la question sur le concept de l'humain. Et pour moi, l'anthropologie est primordiale. Comment peut-on penser Dieu si on admet que Dieu a créé quelqu'un qui peut choisir d'être sans Dieu? Donc, effectivement, c'est un petit peu l'Annonciation représente pour moi personnellement l'enseignement qui est présent dans l'orthodoxie sur la synergie. C'est le fait que Dieu vient vers l'humain et l'humain vient à la rencontre de Dieu. Et c'est à cette rencontre-là qu'on commence à rentrer en synergie, qu'on commence à travailler ensemble par consentement mutuel et dans l'amour mutuel. Et l'Annonciation, c'est la plénitude de cette synergie.
Oui, le Dieu aurait tout pu faire sans l'homme, mais sans l'homme,
il aurait pu même nous créer parfait sans la possibilité de tomber, mais dans ce cas-là, ça ne sera pas des humains, puisque ce serait des robots qui ne peuvent pas tomber. Oui, le libre arbitre absolu, l'image et la ressemblance de Dieu, c'est aussi avoir le libre arbitre et avoir le choix entre le bien et le mal. Oui, sinon, on serait que des pantins.
Oui, et l'amour ne contraint pas. Sinon, ça n'est pas l'amour. On est dans l'autoritarisme, on est dans la contrainte, les synonymes peuvent être multiples, mais l'amour ne contraint pas.
La première disposition de Marie, c'était de croire, de faire confiance, de se confier à Dieu, certaine qu'en lui, rien n'était impossible. Après l'Annonciation, on a vu combien elle avait respecté tout cela. Vous pouvez nous en dire davantage?
Alors, on sera peut-être, amené à parler tout à l'heure de l'Immaculée Conception. Mais chez
vous pouvez,
catholique,
vous pouvez.
Oui, bien sûr. Quand le dogme a été proclamé en 1854 par le pape Pie IX, ça n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, par hasard, parce qu'il l'avait réfléchi comme étant souhaitable. Ça a été véritablement l'aboutissement de siècles et de siècles et de siècles de pratiques qui ont été rythmées et jalonnées par des dates extrêmement importantes. Et qui montre que finalement, l'Immaculée Conception du mari était déjà une réalité, avant même d'être un dogme, qui était cru et fêté, en fait, très tôt par les fidèles. Extrêmement rapidement, de toute façon, c'est avec le mari en tant que nouvelle Ève, c'est déjà en germe chez Saint Justin dès le IIe siècle, chez Saint Irénée aussi, chez Tertullien et d'autres. Comme je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, chez Saint Hippolyte, c'est intéressant, puisqu'il dit, donc je le cite, une arche, faite avec des bois non sujets à la putréfaction de la faute, et l'arche, c'est Marie. Donc très tôt déjà, cette idée de Marie, de la Vierge immaculée, était déjà présente. Alors bien sûr, dès le 7e et 8e siècle, il y a la fête de la conception, un peu différente en Orient, mais dès le 12e siècle, elle arrive en Occident, cette fête. Et elle arrive en Occident en se déployant littéralement. Alors, certains saints comme saint Anselme et saint Théodemère enseignent déjà l'Immaculée Conception de Marie. Et cette fête existe déjà, les fidèles la célèbrent véritablement, et elle s'étend littéralement dans toute l'Europe. Alors après, au Moyen-Âge, il y a une grosse polémique, et notamment avec l'Université de Paris, la Sorbonne, mais entre ce qu'on appelait les maculistes et les immaculistes. C'est-à-dire les maculistes, c'était beaucoup les dominicains, pas que, mais entre autres, qui pensaient que Marie ne pouvait pas être immaculée dès le premier instant de sa conception. Et les immaculistes de l'autre côté qui pensaient que, si, Marie, en vertu de sa vocation exceptionnelle, portée et enfantée Dieu, ne pouvait qu'être immaculée dès le premier instant de sa conception. Et c'était soutenu par les franciscains. Et un certain franciscain, Dun Scot, va littéralement déployer, en fait, en l'argumentant, mais là ce serait un peu trop long de l'aborder, de le développer, mais va le développer et l'argumenter de façon extrêmement explicite. Et puis au Moyen-Âge, il y a ce trio de verbes, cette expression qu'on entend et qu'on répète beaucoup, hein, potuit, dequit, fecit. Potuit, donc c'est oui, Dieu pouvait, potuit, préserver Marie du péché originel. Dequit, bah, il convenait qu'il le fît, donc fecit, donc il l'a fait. Et en fait, on en arrive à cette préservation par anticipation, donc, du péché originel. Hein, ouais.
Je vois, comment dire, que j'aimerais exposer un petit peu le point de vue orthodoxe, parce que quand nous disons que la Vierge Marie est pure, nous sommes d'accord, mais pas exactement dans les mêmes termes. Je vais m'expliquer pourquoi les orthodoxes n'acceptent pas le dogme de l'Immaculée Conception. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai fait face à un protestant il n'y a pas très longtemps qui ne connaissait tellement pas le catholicisme ni l'orthodoxie, qui a attaqué l'orthodoxie avec la phrase « Vous irez en enfer, les orthodoxes, puisque vous croyez au dogme de l'Immaculée Conception ». J'ai failli mourir de rire. Donc j'ai dû le reprendre quand même sur le titre du dogme et lui expliquer que ce n'était pas tout à fait chez nous. De notre point de vue, je dirais, bon, concernant déjà le point, et ensuite je vais passer aussi aux explications et démontrer que cette théologie différente est liée à une approche différente. Il faut comprendre donc déjà une différence d'approche. Historiquement, la tradition occidentale, la théologie occidentale se fonde essentiellement, en tout cas pour le premier millénaire, sur la théologie formulée par saint Augustin. Et la perception de saint Augustin, qui est très importante, c'est surtout déjà sa vision du péché originel. Je précise que saint Augustin, pour nous orthodoxes, est un père de l'Église, vénérable et très très respecté, mais c'est le seul occidental pour 10 orientaux à la même période. C'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Donc ici, l'histoire, ce n'est pas une orthodoxe qui se défend, qui traite quelqu'un d'hérétique ou quoi que ce soit, mais c'est pour dire que du côté oriental, on a un éventail patristique beaucoup plus large, et on a été influencé, bien sûr, par les pères orientaux dans une plus grande mesure que par saint Augustin, même si, pareil, on ne rejette pas totalement sa théologie. Mais puisque la logique de saint Augustin, et je sais que là je vais simplifier, mais sinon on va rester des heures et des heures, sa perception du péché originel est juridique. De cette perception, on vient de l'idée que la culpabilité du criminel, c'est-à-dire Adam, est multipliée sur le statut de la partie offensée, c'est-à-dire Dieu. Puisque Dieu est éternel, la faute d'Adam est éternelle. Là-dessus, il développe l'enseignement sur la massa damnata, la somme des condamnés, la somme des damnés. Et donc, effectivement, quand votre théologie est fondée sur la somme des damnés, il y a une nécessité théologique de sortir la Vierge Marie de cette somme des damnés pour qu'elle puisse concevoir et enfanter Jésus-Christ, qui lui est aussi le nouvel Adam, sans péché, pour éviter de faire des rejets. C'est presque organique, j'ai envie de dire. Elle doit être purifiée pour pouvoir déjà le porter. En réalité, toute la grande différence entre la théologie catholique romaine et orthodoxe est fondée là-dessus. Et nous allons continuer ça après l'intermède musical, qui est un chant de Noël, Eta Noche Svetae, ceci est la Sainte Nuit, chanté par...
Alors, c'est la chorale merveilleuse de l'église Saint-Nicolas de Zayatsky à Moscou.
Voilà.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous allons poursuivre notre échange à présent. Justina, vous souhaitiez compléter?
Oui, je voulais juste terminer sur l'approche, en fait. Donc, nous étions tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de terminer sur la sotériologie juridique de Saint-Augustin, mais voilà, je pense que Catherine peut en dire beaucoup plus que moi et de manière beaucoup plus développée, mais on est vraiment limité. Donc, pour un Saint-Augustin très vénérable et très respecté en Occident, nous avons en même temps une dizaine de pères, et si on doit faire un petit peu un mélange de leurs opinions, on va se diriger plutôt sur une perception organique. Donc, le nom est bien sûr très tardif, la théorie organique, elle date du XXe siècle, c'est l'école de Paris d'où je viens, selon laquelle on ne voit pas le péché comme une culpabilité juridique, mais comme une maladie qui est certes transmise de génération en génération, mais on ne va pas, penser le péché en termes de faute, mais vraiment en termes de maladie. Par exemple, Saint Isaac le Syrien fait une comparaison très orientale. Un pêcheur ressemble à un chien qui lèche le couteau et s'enivre du goût de son propre sang. Donc pour nous, le pêcheur n'est pas un criminel, mais surtout quelqu'un qui est profondément malade. Et quand on a ça, et quand nous n'avons pas l'enseignement très carré et très intéressant de Saint-Augustin, nous n'avons pas de nécessité théologique de développer les idées qui se sont développées dans la tradition occidentale. Et donc c'est pour ça que nous n'avons pas vraiment d'avis clair et tranché, et aussi pour une autre raison, dans la théologie orthodoxe, la théologie dogmatique est une théologie de riposte. C'est-à-dire que c'est toujours une réponse à une problématique. Donc il faudrait, à la limite, qu'il y ait une hérésie qui arrive, qu'un grand concile se réunit pour ensuite recadrer quelque chose qui ne va pas. Tandis que je sais que la théologie catholique, en tout cas ça a été formulé par un saint catholique du 19e siècle, en anglais, John Henry Newman, qui donc formulé la théorie du développement dogmatique. Et cette approche n'est pas du tout la nôtre, pour des raisons historiques, voilà, patristiques aussi. C'est pour ça que nous n'avons pas ce dogme. Alors, pour dire, il y a des opinions très très larges dans l'orthodoxie. Quand on regarde certains textes de Saint Grégoire Palamas, on pourrait presque affirmer que c'est quelqu'un qui croit à l'Immaculée Conception de Marie. Il a suffisamment de textes qu'on pourrait dire qu'il était de cet avis-là. Mais de l'autre côté, on a un témoignage beaucoup plus ancien, au IVe siècle, de Saint Épiphane de Chypre, qui est aussi un saint catholique et orthodoxe en même temps, qui, si on peut résumer tout son discours sur la question, c'est « on ne sait pas ». À son époque, il dit « on ne sait même pas si elle est morte et enterrée ou si elle est au ciel, mais quoi qu'il advient, elle est ce qu'elle est, c'est la très sainte, vénérable Mère de Dieu, mais on ne va pas se prononcer ». Et on va dire que la position, n'ayant pas de position officielle dans l'Église orthodoxe, je pense que nous, on va maintenir la position de ne pas se prononcer, surtout que, comme il n'y a pas de défi en face, et nous ne sommes pas en phase de, comment dire, de rentrer dans des débats vifs avec nos frères catholiques romains, je ne pense pas que quelque chose va changer du côté orthodoxe.
Je comprends. Oui. Alors, vous évoquiez Justina et le cardinal Newman. Et concernant le dogme de l'Immaculée Conception, il a des termes, enfin, des réflexions qui sont extrêmement pertinentes. Et il dit notamment la première femme, donc Ève, aurait pu déjouer les ruses du tentateur, mais elle ne le fit pas. Mmh. Donc, dans sa logique et dans l'explication de la théologie du dogme en question qu'il fait, il explique qu'il y avait la nécessité que Marie soit au moins égale à Ève par ses dons de science et ses dons de grâce. Et il dit « Marie est la seconde Ève ». Il écrit d'ailleurs un opuscule là-dessus. Il a énormément travaillé. Ça l'a fait basculer littéralement intérieurement en matière de conversion. Et il dit « Marie est la seconde Ève de cette doctrine primitive de l'Église. J'ai déduit de façon immédiate, écrit-il, la doctrine de l'Immaculée Conception. » Pourquoi ? Parce que il y a la question de l'empreinte ou pas, de l'accointance ou pas avec le mal. Or, Jean-Paul II, chez nous, catholique, explique que ce qu'on appelle le protévangile, alors pas celui de Jacques, hein, mais Genèse 3, et notamment le verset 15, Genèse 3, 15, qui est, vous savez, ce fameux verset « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance ». Elle t'écrasera la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Saint Jean-Paul II, dans une catéchèse, nous explique très clairement que c'est la source de la vérité de l'Immaculée Conception. Pourquoi ? Alors, je ne vais pas entrer dans des développements, mais simplement préciser une chose. Il explique que ici est mentionnée une hostilité absolue et définitive établie par Dieu entre, d'un côté, la femme et sa descendance, Marie et le Christ, et de l'autre côté, le serpent et sa descendance. Donc, pour être l'ennemi inconciliable du serpent et de sa descendance, Marie devait être exempte de toute domination du péché, et cela dès le premier moment de sa conception. Ça, pour nous, c'est fondamental. Alors, le dogme de l'Immaculée Conception sera proclamé par le pape Pie IX hein, en 1854, et il sera confirmé par les apparitions de Lourdes, hein, où Bernadette, qui était une jeune fille illettrée, en fait, lors de l'apparition du 25 mars, hein, en plus, hein, oui. c'est très signifiant, très hein, 1858, quand elle lui dit « Mais alors, dites-moi qui vous êtes ?» Et elle lui dit, donc en patois, hein, en patois du sud-ouest de la France, hein, pyrénéen, « Qu'est-ce Immaculada, que soy era Immaculada Concepción, et Bernadette ne comprend rien. Elle se le répète tout le temps, mille et une fois, pendant qu'elle court trouver l'abbé Peyramale pour lui dire « voilà ce que m'a dit la belle dame ». Et quand l'abbé Peyramale entend ça, il lui dit « mais ma fille, une dame ne peut pas dire ça ». Forcément, l'Immaculée Conception, lui, il sait que 4 ans avant, ça a été promulgué.
Oui, tout à fait. Justina, vous vouliez rajouter ?
Disons qu'on a un petit peu chevauché, on est vraiment très 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 limité par le temps, je le constate, parce que je sais qu'il faudrait qu'on bascule sur la Dormition et l'Assomption.
Nous le ferons la prochaine fois,
d'accord. Donc voilà, je voudrais juste dire que nous avons une tradition très ancienne aussi, et vous avez parlé notamment des sources effectivement mariales, donc j'aimerais juste donner des sources à nos auditeurs. Donc, je précise, ce sont des sources apocryphes. Et normalement, les canons des saints apôtres, le canon numéro 60, interdit la lecture des apocryphes. Ouais. Mais vous inquiétez pas, on l'a tous fait. bien sûr, il y a le protoévangile de Jacques qui nous parle notamment de la conception de Marie, où il n'y a pas vraiment d'immaculée conception de manière explicite, mais quoique sa conception est parfaitement miraculeuse, nous sommes tous d'accord sur ce sujet. Ensuite, il y a le récit de la Dormition de la très sainte mère de Dieu, ainsi que ses copies grecques, syriennes, arméniennes. Par exemple, la version syrienne s'appelle l'Exode de la Vierge Marie. Qui date à peu près du 4e siècle, début 5e siècle. Et c'est justement dans la traduction latine, qui s'appelle Transitus Mariae, qu'on retrouve la première mention de l'ascension de Marie, mais qu'on ne retrouve pas dans les, on va dire, apocryphes, entre guillemets, originaux grecs.
Alors, Catherine et Justina, je n'ai pas voulu vous interrompre parce que c'était vraiment très intéressant. Je vous propose que nous nous retrouvions une autre fois pour parler de Dormition et d'Assomption. Je pense que tout le monde sera très content. Donc, rendez-vous alors pas pour la prochaine émission, mais très prochainement en tous les cas. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bon réveillon. En ce 31 décembre, nous serons très heureux de vous retrouver dès le 7 janvier 2024. À très bientôt.